7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 5 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un gros coup d'accélérateur sur la vaccination dès ce week-end, avec pour objectif 30 millions de Français vaccinés d'une première dose d'ici l'été. Vaccinés mais aussi testés massivement. Et comme prévu, le Pas-de-Calais se reconfine pour les 4 prochains week-ends. Tout cela en détail, Agnès, après les autres titres.
Et nous irons aussi au Brésil, où la situation est dramatique, mais où le président Bolsonaro exhorte ses concitoyens à cesser de geindre. Le pape François attendu en Irak, première visite pontificale dans ce pays en crise depuis 40 ans. C'est habituellement la fête de l'agriculture en cette période de l'année à Paris. Des agriculteurs aujourd'hui au désespoir, ils ont manifesté hier dans la capitale. Et puis les derniers ne seront peut-être jamais les premiers, mais ils méritent largement notre attention. Le dernier concurrent du Vendée Globe arrive au Sable d'Olonne.
Invité et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Le gouvernement a évoqué un possible retour à la vie normale le 15 avril prochain. Est-ce possible? Et qu'est-ce que la vie normale en économie? Vaste question. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'écrivain Jean Hatzfeld pour son nouveau livre « Là où tout se tait » paru chez Gallimard. C'est le 6e livre qu'il consacre au génocide rwandais ces 20 dernières années. Vos questions dès maintenant, dialoguez avec lui. 01 45 24 7000.
France Inter.
Des centres de vaccination ouverts ce week-end de 6h à 22h à Paris. Des structures temporaires installées au pied d'immeubles dans certains quartiers. Le début, le 15 mars, de la campagne de vaccination en pharmacie, sur rendez-vous, via la plateforme OrdoClic, qui sera opérationnelle lundi. Des dizaines de milliers de doses supplémentaires de vaccins mises à disposition dès aujourd'hui dans les régions les plus touchées. Nous allons pratiquer un marathon de la vaccination, a commenté hier soir le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Ce qui est sûr, Daniel Messager, c'est que le gouvernement veut accélérer la cadence avec un objectif, donc 30 millions de Français vaccinés d'ici l'été.
La vaccination, c'est l'arme absolue. Elle a déjà montré son efficacité. Ainsi, sur les plus de 80 ans, on enregistre moins de 17,5% de contamination ces 15 derniers jours. Il faut donc l'accélérer, y compris le week-end. Des centres de vaccination éphémères vont donc ouvrir dès samedi, notamment dans les départements sous tension. Qui pourra accéder à cette vaccination? Les plus de 75 ans qui peinent encore à trouver un rendez-vous dans les centres déjà ouverts. Les plus de 50 ans avec comorbidité. Aux 23 départements sous surveillance renforcée, 135 000 doses ont été allouées, dont 10 000 pour le Pas-de-Calais et 12 000 à Nice. Les pharmaciens vont entrer dans le circuit de la vaccination le 15 mars. Ils pourront vacciner les plus de 50 ans avec comorbidité. Pour les autres, sans facteur de risque, ce sera mi-avril. D'ici le 15 avril, ce sont 10 millions de personnes qui auront reçu une première dose. D'autre part, un appel solennel a été lancé aux soignants qui ne sont pas encore vaccinés. Olivier Véran va leur rappeler la nécessité de la vaccination par écrit. Il envisage sinon de saisir le Conseil national d'éthique pour statuer sur une éventuelle obligation.
Vacciner, tester, nous allons y revenir, pour éviter les reconfinements. Seul le département du Pas-de-Calais est concerné par un reconfinement pour les 4 prochains week-ends, avec des commerces de plus de 5000 m² fermés. 23 départements, l'Aisne, l'Aube et les Hautes-Alpes ont été rajoutés à la liste, sont sous haute surveillance avec plus de 250 cas pour 100 000 habitants. Et là, ce sont les centres commerciaux non essentiels de plus de 10 000 m² qui vont rester fermés. La hausse se poursuit, mais elle n'est pas exponentielle, a expliqué hier soir le Premier ministre, avec un peu plus de 25 000 nouvelles contaminations en 24 heures, 293 décès à l'hôpital et 3633 patients en réanimation. Un week-end donc de vaccination et de dépistage. La Direction générale de la Santé a demandé hier soir au laboratoire de rester ouvert demain et après-demain pour tester un maximum de personnes dans les zones à risque. La précipitation de cette initiative a pris de court les biologistes, Véronique Julia.
Pas d'obligation, tout se fera a priori sur la base du volontariat. N'ouvriront que les labos qui le peuvent. Les agences régionales de santé devraient les y aider. Mais le temps presse, elles n'ont finalement que 24 heures pour mettre les choses en place. Alors pourquoi tant de précipitation? Il semblerait que le gouvernement veuille casser les chaînes de transmission au plus vite dans les zones où le virus flambe, mais aussi dresser, grâce à ce dépistage massif, une sorte de cartographie, prendre une photo à l'instant T pour avoir une réalité précise du terrain. La profession s'étonne malgré tout qu'on improvise de cette façon. Lionel Barran préside le syndicat national des jeunes biologistes médicaux.
Évidemment, c'est très court comme délai. Ça aurait été bien de l'apprendre quelques jours avant. Tout le monde a été surpris. On est pour l'instant sur la stupéfaction. C'est herculéen comme travail.
Herculéen notamment car les personnels sont déjà très sollicités. François Blanchecotte préside le syndicat des biologistes.
C'est vrai que ça va être un défi assez important. On est en fin de semaine. Tout le monde a prévu de se reposer ce week-end. Ça va pas être si facile que ça.
Et puis d'ici demain, il ne reste plus finalement que quelques heures pour avertir les populations et communiquer sur la démarche. Avec évidemment au bout cette question, les gens viendront-ils se faire tester? Les dépistages massifs opérés jusqu'à présent au Havre ou à Roubaix, pour ne citer qu'eux, n'ont pas été très concluants, faute de participants. Alors les labos ouverts ce week-end auront-ils du travail? Réponse hier soir d'un biologiste, je n'y crois pas.
Véronique Julia. Et s'il y a un pays ce matin qui semble au bord de l'effondrement sanitaire, c'est le Brésil qui enregistre des records de morts quotidiens. Les hôpitaux sont saturés et la campagne de vaccination n'avance pas. Pourtant, le président Bolsonaro demande aux Brésiliens d'arrêter de pleurnicher et d'aller de l'avant, critiquant les maires des grandes villes qui tentent de prendre quelques mesures de restriction. Reportage dans les rues de Rio de Janeiro, Dan Vigna.
Dans le centre de Rio, Noémie vend ses noix de coco mais veut surtout rentrer chez elle avant que le métro ne soit bondé. Elle commente les mesures prises ce jeudi par le maire de Rio mais qu'elle considère bien timides.
Le préfet a décrété que à partir de 5 heures, les restaurants...
Le maire a décrété qu'à partir de 17 heures, les bars et restaurants devaient fermer. Mais ces mesures auraient dû être prises depuis plus longtemps. À Noël, au réveillon, au carnaval, il y avait beaucoup de gens, des bars remplis. Et maintenant, on est dans cette agonie, en attendant cette vaccination qui va très lentement, malheureusement.
Danilo s'approche pour acheter la dernière noix de coco. Ce jeune architecte plaide pour un vrai confinement et surtout pour le retour des aides sociales.
Ma plus grande préoccupation, c'est qu'il semble bien qu'on atteint le pire mois de la pandémie et on n'a toujours aucune garantie que l'aide sociale va être mise en place, alors que tous les prix des denrées augmentent.
Sans ces aides sociales, la majeure partie de la population au Brésil ne peut rester à la maison. Le président, qui s'oppose à tout confinement, veut éviter à tout prix que le Parlement les instaure, comme en mars dernier. Rio de Janeiro, un Via France Inter.
Aux États-Unis, au contraire, premier signe d'amélioration. Pour la première fois en 5 mois, moins de 40 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, contre 300 000 cas le 8 janvier dernier. Baisse également du nombre de décès et du nombre d'hospitalisations.
Et c'est dans ce contexte, Agnès, il est 7h08, que le pape François s'envole ce matin pour l'Irak.
Un voyage qualifié d'ores et déjà d'historique. Jamais un pape ne s'est rendu en Irak auprès des chrétiens qui ont choisi de rester, malgré les difficultés et les persécutions et les crises à répétition depuis 40 ans. Un voyage, Bruce de Guelzin, délicat sur le plan de la sécurité.
Le voyage est dangereux, mais on ne peut pas décevoir les Irakiens, estime le pape. Ce que pense aussi le cardinal Filoni, ancien nonce en Irak, qui l'accompagne.
On ne peut pas dire que le Saint-Père visite un pays lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a tranquille. L'Église doit être là où il y a de la souffrance, où il y a des problèmes.
L'armée irakienne, la gendarmerie vaticane et plusieurs gardes suisses ne lâcheront pas le pape qui se déplacera en voiture blindée. Le risque n'est pas pour lui, selon Mgr Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, qui sera en Irak.
Le problème, c'est qu'il n'y ait pas un espèce d'attentat qui peut être fait n'importe où en Irak pour protester contre sa venue. Et ça, ce sera quand même assez difficile de l'encadrer.
Le risque est aussi sanitaire, car le nombre de cas de Covid augmente, selon le frère dominicain Amir Jagé, irakien, sur place pour préparer le voyage du pape.
Les chiffres, on ne peut pas dire que c'est tout à fait fiable. Et donc, l'état sanitaire, ça questionne. Pour le pape lui-même, il a été vacciné, il n'y a pas de risque pour lui. Mais le risque, c'est plutôt pour les autres.
Car il sera difficile de contenir les foules, mais les Irakiens sont moins à risque qu'en Occident. La moitié de la population a moins de 20 ans. Rome, Bruce de Guelzin, France Inter.
La communauté internationale tente de faire pression sur la junte militaire birmane. Réunion aujourd'hui à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Appel à un embargo mondial sur les livraisons d'armes et nouvelles sanctions américaines. Malgré la crainte de la répression, de nouvelles manifestations sont annoncées aujourd'hui. Retour en France avec une nouvelle action des agriculteurs hier à Paris. Dans une ambiance pesante qui tranche avec l'habituelle effervescence du salon de l'agriculture, annulé pour cause de Covid. Sur l'esplanade des Invalides, la centaine de manifestants avait installé des mannequins pendus dans les arbres, symbole des difficultés et du désespoir des agriculteurs. Manuel Ruffez.
On vous nourrit, mais nous, on crève. Les messages sur les banderoles donnent le ton. Stop aux fermes qui ferment. Selon la coordination rurale, 1500 agriculteurs déposent le bilan chaque année. Emmanuelle Chignat, agricultrice en Dordogne, le constate autour d'elle.
Beaucoup de travail, beaucoup de difficultés économiques et financières. C'est très très compliqué économiquement et puis maintenant moralement.
Pire que ça, la mort est dans le pré, annonce encore une affiche. Les agriculteurs sont en détresse, dénonce le syndicat qui parle de 2 suicides par jour. François Valrette s'est rallié dans l'Allier.
Ils sont montrés comme étant des meurtriers d'animaux, comme étant des pollueurs, comme étant des saccageurs de l'environnement. On est là pour exprimer notre désarroi, notre tristesse et essayer d'alerter sur tout ce monde agricole qui est poussé au suicide dans l'indifférence générale.
Et puis, selon leur président Bernard Lane, la loi Egalim, qui aurait dû permettre de mieux les rémunérer, ne fonctionne pas.
Quand j'entends le patron de la Fédération du commerce et de la distribution dire que de toute façon, le consommateur, ben vous ne voulez pas payer parce que vous voulez des produits pas chers et que derrière, ben oui, ben il ne peut pas payer l'agriculteur, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Quoi. Parce que chaque fois que j'entends, j'ai envie de lui donner un mouchoir parce qu'il me fait pleurer la main aussi.
Protéger nos agriculteurs et nos exploitations, c'est aussi, souligne la coordination rurale, protéger la souveraineté et la sécurité alimentaire de la France.
L'association CLCV remonte au créneau pour demander un meilleur encadrement des boissons énergisantes dont la consommation a doublé en 7 ans, générant près de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des boissons dont les taux en caféine et en taurine ne sont pas suffisamment clairs, selon la CLCV qui demande une étude officielle sur les effets de ces boissons à court et à long terme. De l'énergie, lui, n'en a pas manqué pour passer 117 jours seul en mer. Le navigateur finlandais Harri Uusela va franchir dans une bonne heure la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Il sera le dernier au classement. Ce pilote de ligne sera le premier Scandinave tout de même à boucler un tour du monde. Et comme le veut la tradition, il sera accueilli tout à l'heure au Sable d'Olonne par d'autres concurrents et par Jérôme Val.
Il y a 2 jours, Harri Uusela confiait se sentir encore plus seul depuis qu'il sait qu'il est le dernier concurrent en mer. Mais à son arrivée sur la ligne, le Finlandais aura du monde à saluer d'anciens partenaires de jeu, notamment dont Romain Attanasio.
Tant qu'il y a du monde en mer, on suit la course. Ouais, Harri, même s'il est tout seul, je regarde la carto tous les jours pour voir où il est. Quoi. Donc, tant que tout le monde n'est pas rentré, la course n'est pas finie.
Lui en a fini avec son tour du monde depuis presque un mois, mais il a tenu à revenir au Sable d'Olonne pour l'accueillir.
Un pilote d'avion qu'on connaît depuis quelques années, donc on aime bien le personnage. D'abord, c'est la première chose, hein. S'il n'était pas sympa, j'irais pas. C'est le dernier qui rentre au bercail, quoi. Donc c'est sympa d'être là, je trouve. Pour fêter ça un petit peu, c'est non seulement pour fêter Harri, mais c'est aussi un petit peu pour fêter l'organisation, tu vois.
Harri Uusela est le 25e concurrent à rentrer, plus les 2 bateaux hors course. Ça fait donc 27 arrivées depuis la fin janvier et toujours des émotions à part pour Romain Attanasio.
Voir ce bateau à l'horizon, là, c'est toujours incroyable, quoi. Et ça, c'est assez chouette et je pense On va encore avoir la chance de le vivre une dernière fois pour Harri. Après, il faudra attendre 4 ans.
Le Vendée Globe va bientôt se terminer avec le retour de l'un des 2 navigateurs non professionnels de cette édition.
Et on suivra l'arrivée d'Harri Uusela au Sable d'Olonne en direct dans le journal de 9h.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info à Nîmes, où le président de la métropole a récemment été renvoyé devant le tribunal correctionnel.